Radio Barque, pour notre 33e et cette troisième partie, notre invité, je le rappelle, c'est Jean-Hugues Silbermann. Alors vous avez, vous aussi, Monsieur Silbermann, rencontré Monsieur Didier Mouly. Quel a été le résultat pour vous de cette rencontre? Qu'avez-vous dit?
Eh bien, écoutez,
ou pas dit?
Ah, non, ça, faites-moi confiance, on est resté 1h30. Vous en avez fait l'expérience, quand on me donne un micro, je le garde. Non, écoutez, c'est très intéressant ce que vient de dire M. Stanto, parce que le premier paragraphe de ma réponse écrite à M. Mouly, maire de Narbonne, a été de rappeler un des points essentiels de ma philosophie politique. Et là, je lis. Un député est élu pour voter les lois de la République qui, par définition, concernent l'ensemble des citoyens du territoire national. En ce sens, je considère que les problématiques locales ne relèvent de mon rôle en action de futur député que dans la mesure où elles s'articulent avec une démarche politique nationale cohérente ou qu'elles enrichissent la réflexion du député par une particularité ou une urgence territoriale. Voilà. À titre d'urgence territoriale, j'ai cité mon opposition farouche au projet de développement de TDN Tor, parce que j'estime que le rôle du député qui va être élu, quel qu'il soit, c'est de demander immédiatement une commission d'enquête parlementaire, de demander un moratoire et d'engager une série de mesures pour que l'on choisisse un problème, une solution pour résoudre ce problème, sans que la population de la Narbonnaise devienne les cobayes de l'industrie nucléaire américaine.
Oui. Un mot d'explication, parce que c'est un petit peu du jargon technique. TDN TOR, ça veut dire le traitement des nitrates à Malvézie.
Tout à fait. On a depuis 58 ans... des rejets toxiques nucléaires, des boues extrêmement nitratées, mais aussi des boues qui contiennent des particules nucléaires, qu'il faut traiter, qu'il faut éliminer. Or, le projet qu'a choisi en toute indépendance, sans consulter la population, Areva, est un projet qui n'a jamais été testé à l'échelle réelle sur toute la planète. Jamais, jamais,
oui,
jamais.
Oui, c'est ce que nous a expliqué M. Bory à ce même micro il y a quelques semaines.
Hein, c'est M. Bory qui a accepté de me recevoir pendant 2 heures pour m'expliquer les tenants et les aboutissants. Puisque vous l'avez eu, j'en remets pas une couche, il est beaucoup plus compétent que moi.
En tout cas, il nous l'a expliqué en termes aussi simples que possible, parce que c'est vrai que ça ne l'est pas forcément.
Une parenthèse, Jean-Claude, permettez de... Je suis invité cet après-midi, enfin vendredi après-midi, j'étais invité plutôt à visiter l'usine de Malvézy, mais je n'en dirai pas de mots. Oui. Une très belle usine quand même.
Ah oui, oui, bien entendu. Bon, et puis elle est là depuis longtemps, puis elle tient son rôle. Mais comme on l'a fait remarquer, il y a un mais.
C'est vrai.
Alors, pour en revenir au contenu de ma réponse à M. Mouly. Sur la première question, moi, ce qui m'importe, si vous voulez, et ce que j'ai mis en avant, c'est que tous les moyens qui permettront de renforcer le sentiment de sécurité sont des moyens qui peuvent être intéressants. Parce que le sentiment de sécurité renforce la sécurité elle-même. Quand les gens sont mieux dans leur tête, ils sont moins agressifs, plus attentifs aux autres,
ça, etc. C'est la question sur la vidéosurveillance.
Oui, sur la vidéosurveillance. Mais j'estime surtout que derrière ça, il y a une question de fond. Il convient certes de rapprocher la police nationale de la population, mais ce qui est important, c'est d'arrêter de transférer aux communes la charge de la sécurité. Pour moi, la sécurité de la nation doit être refondée avec raison et rester une prérogative régalienne de l'État.
Or, on en est très loin.
On en est très loin. La police nationale a besoin d'être renforcée, refondée sur de nouveaux objectifs, avec une nouvelle méthode de travail, de notation et d'éthique interne. Et puis, quand même, par rapport, pour ne pas éluder complètement la question de la vidéosurveillance, si les mesures que doivent prendre l'édile de Narbonne permettent de retarder à l'infini le moment où il devra armer la police municipale, alors je suis pour. Parce que je suis farouchement opposé à ce que les policiers municipaux aient une arme. Mmh. Ça, c'est le rôle de la police nationale. Voilà pour le premier point.
Oui, or, ils le sont. Ils ont des armes à Narbonne, même s'ils ne les sortent pas très souvent, on va dire.
Le futur député, M. Silbermann, pourrait modifier en quoi que ce soit, je dirais, le pouvoir de maire, en fait, de mettre ou de ne pas mettre des caméras de vision
sur... Non, mais mon pouvoir de député peut faire en sorte que la police nationale, justement, dispose de beaucoup plus de moyens au service des populations. Une police de proximité, des moyens physiques, des ordinateurs qui soient en réseau et qui soient dans de bonnes conditions d'accueil des citoyens, une meilleure proximité. Et à ce moment-là, on verra que les solutions parallèles qu'on leur met en place... petit à petit, perdront de leur utilité. Voilà.
Alors revenons
sur la salle multimodale. Il y avait en fait 2 questions. Êtes-vous favorable ou pas? Eh bien écoutez, moi c'est très simple. Je n'ai pas à être favorable ou pas
en tant
à une question
en tant que candidat
à une
à la députation.
Question qui ne concerne que l'édile, son équipe municipale et la population.
Et son opposition municipale.
J'ai dit à son équipe municipale, si vous voulez, et l'opposition. J'ai dit à Monsieur Mouly que si, par contre, il organisait un référendum ouvert à tous les citoyens de Narbonne, en tant que citoyen, j'y participerais. Il me dit, quelle serait votre réponse en tant que citoyen? J'ai dit, faites le référendum, vous l'aurez. Voilà. Alors maintenant, sur le deuxième point. Le deuxième point, si vous voulez, aiderez-vous par tous les moyens possibles. En fait, ça revient à dire, nous aiderez-vous à décrocher des subventions. Écoutez, ma longue expérience d'expert international de la coopération française, de président de la commission des finances de la CCI Narbonne, d'adjoint au maire de Sète et surtout de chef d'entreprise, m'a forgé une démarche. On ne se prononce jamais sur la validité d'un projet au feeling ou par passion personnelle. Moi, avant que je puisse me prononcer, à supposer que je choisisse d'intervenir dans un dossier de cette nature, que par ailleurs je considère qu'il relève du domaine de l'agglomération, du département ou au mieux de la région, mais ce n'est pas un projet d'intérêt national. La salle multimodale, ça ne peut pas être un projet qu'on va débattre à l'Assemblée nationale. Ceci étant, sur le fond, pour se prononcer, il nous faut quoi? Il nous faut un avant-projet sommaire. Un bilan prévisionnel d'exploitation sur 3 ou 5 ans, l'impact sur la trésorerie, le tableau d'amortissement, les équipements concurrentiels, etc. Toutes choses qui permettent d'avoir une vision sensée. Oui,
des documents pour juger.
Que monsieur, exactement. Que monsieur Pi ou d'autres puissent se permettre, les mettre dans les poches, de dire « oui, oui, oui », moi je trouve ça au mieux de l'irresponsabilité, au pire de la stupidité, mais plus probablement de la flagornerie et du clientélisme.
Voilà qui est clair, en tout cas, pour cette rencontre. Alors, vous êtes sur le terrain, et vous y êtes vraiment. Vous parcourez, vous arpentez le terrain, Monsieur Silbermann. Vous avez même une voiture, alors de fonction, je mets des guillemets, c'est ironique.
Voiture d'affichage. Une publicité ambulante.
Pour cela faire, et bien entendu...
Qui n'est pas financée par une collectivité locale.
Vous allez expliquer votre programme. Alors, en regardant votre programme, on a... pas mal l'impression que vous avez repris un certain nombre de choses, soit de la gauche socialiste, soit des Verts. On pourrait reprendre un certain nombre de points précis. Comme si ces éléments-là avaient été en quelque sorte abandonnés, alors par des partis qui aujourd'hui sont un petit peu en naufrage l'un et l'autre.
Alors vous avez fait une très bonne approche parce que vous avez parlé des éléments. Notre programme, l'avenir en commun, c'est justement tout le contraire de ce que vous venez de dire. C'est pas des éléments, c'est un programme commun, c'est-à-dire un programme cohérent, un programme chiffré où les choses s'articulent les unes avec les autres. Le programme, l'avenir en commun, il a été acheté, je dis pas diffusé, je dis acheté, 250 000 exemplaires, consulté sur Internet près d'un million de fois. Donc on a là un programme, si vous voulez, qui est à la connaissance de tout le monde. Il a des grands chapitres. Il y a un chapitre qui s'appelle la transition écologique et paysanne, il y a un chapitre qui s'appelle la transition énergétique, il y a un chapitre qui s'appelle l'économie de la mer. Alors on n'a pas repris des éléments, on a construit une stratégie globale pour la France sur 5 ans, une stratégie qui articule tous ces éléments entre eux. Alors effectivement, je les détaille, que d'autres s'y retrouvent, tant mieux, on ne prétend pas avoir inventé l'eau chaude, on prétend simplement... proposer à la société un programme cohérent de développement harmonieux où ce ne soit pas la finalité du tous contre tous, mais du tous prenne soin de chacun. C'est une grosse différence philosophale.
Alors, une petite remarque, Monsieur Silbermann, de politique, presque de politique politicienne nationale. C'est le programme de l'avenir en commun, mais c'est pas l'avenir, c'est pas le programme, ou ça n'est plus le programme commun de la gauche. Parce que la gauche, elle a volé en éclats, et je crois que Monsieur Mélenchon, il contribue un petit peu quand même.
Mais moi, j'ai jamais dit que c'était le programme commun de la gauche. Non. Notre programme s'intitule l'avenir en commun.
Oui. À propos de Monsieur Mélenchon, il y a eu quelques polémiques. Il y en a forcément dans des campagnes, mais vous trouvez pas que parfois il y va un petit peu fort quand il sous-entend que Monsieur Cazeneuve aurait été un assassin?
Ne sous-entend rien du tout. Il a dit et il a affirmé que c'était à l'époque le responsable de cette situation. Je pense que les faits le prouvent. Maintenant, c'est une affaire, comme vous dites, qu'on monte en mousse parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à opposer au PS. On n'a plus de programme au PS. On n'a plus de revenu universel. On n'a plus de 49.3 citoyens. On n'a plus de lutte contre le diesel, on n'a plus de sortie du nucléaire, on n'a plus rien. Et vous avez un Cambadélis qui déclare c'est pas Hamon qui fait le programme, il n'a pas été élu. Bon, alors très bien, moi, bonne chance, Madame Fabre, bricolez dans votre coin avec des bouts de programme si vous pouvez. Et si vous trouvez rien d'autre, attaquez Jean-Luc Mélenchon une fois de plus, ça vous occupera.
Alors oui, Michel, remarque.
Je rappelle à nos auditeurs que la France Insoumise, enfin, son représentant ici, là, avec nous, a fait le plus beau score à la présidentielle sur la ville de Narbonne.
Nous avons qualifié Jean-Luc Mélenchon pour le deuxième tour sur toute la circonscription.
Oui, monsieur,
et dans les deux autres circonscriptions de l'Aude.
Non, j'allais y venir. À Narbonne en particulier et sur l'ensemble de la circonscription. Donc, près de 21%, si je me
plus de 21%.
Plus de 21%. Donc, l'enjeu pour M. Sullivan, c'est effectivement de consolider, capitaliser effectivement sur ce score. Et comment vous voyez les choses, justement?
Écoutez, nous, je le disais à M. Jules avant de commencer cette émission, on a fait 23 réunions publiques dans la partie présidentielle. On continue. On ne fait pas des émissions... des réunions. On fait des émissions de radio, fort peu malheureusement, fort peu. On ne fait pas des réunions pour flatter les électeurs dans leur fief, que ce soit dans une CAF coopérative, dans une association ou autre. Nous, on fait des réunions pour expliquer les enjeux de société. C'est-à-dire que chaque réunion est centrée autour du développement économique, autour de l'emploi, autour de la sécurité sociale, autour des retraites, autour des services publics. C'est ce genre de réunion. On fait le pari de l'intelligence. L'avenir dira si on a raison. Mais en tout cas, on n'est pas là pour faire du clientélisme en additionnant des propositions contradictoires qui, de toute façon, ne tiendront pas. Vous avez un Michel Py qui a dû changer 4 fois de programme. Ah, peut-être depuis qu'il est député, depuis 15 ans, je sais pas, au moins 6 ou 7 fois de programme. Mais à chaque fois, il les défend parce que c'est son matériel pour devenir député. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la proposition de défendre un programme cohérent, un autre avenir. Et sur la Narbonnaise, nous faisons des propositions très concrètes d'emploi, notamment dans le dossier de la transition vers l'agriculture paysanne et écologique et le dossier des économies de la mer. Voilà.
Alors, revenons sur certains points précis, concrets du programme, et notamment alors sur l'écologie. Je disais, vous avez un gros programme écologique. C'est pour ça que ça me faisait dire que vous aviez repris des choses abandonnées ou non appliquées par les Verts, notamment, par exemple, sur la sortie du nucléaire, sur les énergies renouvelables, sur l'éolien. Alors, l'éolien, on va en parler, puisque ça nous concerne beaucoup. On est dans un pays où l'éolien a un climat propice, favorable. Or, vous savez très bien que même dans un climat comme ça, il est difficile de construire des éoliennes. Et justement, j'avais gardé, Monsieur Silbermann, une coupure de journal d'il y a 2 semaines environ. Sur la même page, il y avait Monsieur Silbermann et sa suppléante. Et en bas, parc éolien de Roquefort, un non définitif. Donc, voyez, je l'avais mis de côté parce que ça m'avait en quelque sorte amusé, si je puis dire, en disant, voyez, la difficulté de défendre la construction d'éoliennes dans un pays comme l'Aude.
D'accord. Alors écoutez, quelle que soit la solution que vous choisissez, que ce soit des éoliennes à terre ou des éoliennes en mer, il y aura toujours quelqu'un pour parler de pollution visuelle. Ceci étant, aujourd'hui, le territoire de la Narbonnaise, le territoire de la circonscription, bénéficie de 2 projets pilotes. À Gruissant et à Lecal.
En mer.
Parce que vous parlez d'écologie et éolienne. Moi, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, les éoliennes, enfin, la production alternative d'énergie, c'est plus la transition énergétique pour la sortie du nucléaire. Si on veut déclencher dès maintenant la sortie du nucléaire, il faut avoir un plan de programmation particulièrement fort de construction d'énergie renouvelable. Alors, les éoliennes en mer, aujourd'hui, ce sont des projets tests. Certains disent des projets pilotes. Mais si nous voulons, et vous ne m'avez pas posé la question de notre stratégie politique, mais notre stratégie politique, elle est très claire. Si les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel se reportent sur ses candidats aux législatives, nous sommes en mesure de nous maintenir au deuxième tour dans 400 circonscriptions. Donc nous sommes en mesure d'imposer une majorité de cohabitation, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre et l'Avenir en commun comme programme. Donc si nous voulons réaliser cela, effectivement, à ce moment-là, les éoliennes, c'est la priorité à des fermes d'éoliennes en mer. Une ferme d'éoliennes en mer, comme vous en avez au Danemark, comme vous en avez aux Pays-Bas, comme vous en avez en Allemagne, sur la Baltique, c'est l'équivalent de 360, c'est 60 éoliennes en moyenne, c'est la masse critique générale qu'on observe, c'est 60 éoliennes qui produisent 360 mégawatts, ce qui veut dire le tiers d'un réacteur nucléaire. Et là, on a des potentialités immenses. Et vous voyez l'articulation dans notre programme entre transition énergétique, écologie et en même temps création d'emplois. Parce que toutes ces éoliennes, c'est une industrie qui va se mettre en place. On ne peut pas transporter les pales. On ne peut pas les transporter. Vous pouvez transporter une aile d'Airbus, mais pas une pale d'éolienne de cette longueur de 90 mètres. Parce qu'avec les vibrations induites, elles entrent en fréquence et elles cassent. Il faut les construire sur place. Ça veut dire qu'il faut faire des terre-pleins sur le port. Il faut faire des hangars. Il faut des raccordements électriques. Tous les gens qui font ça, il faut les loger. Leurs enfants vont à l'école. Ils consomment. Ils se coiffent. C'est les emplois induits. Un emploi direct dans l'économie de la mer, c'est deux emplois induits. Et on considère, à partir de notre programme de 300 000 emplois sur l'économie de la mer, qu'on peut être à 60 000 emplois sur la Méditerranée. Mais retenez bien ce que je vous dis, l'économie de la mer, il me faut 40 minutes pour le développer. Parce que c'est pas seulement les énergies renouvelables, et surtout pas seulement les éoliennes, c'est aussi les hydroliennes, c'est aussi les pompes à chaleur thermique immergées, c'est l'algoculture, c'est la pêche en ferme bio. C'est tout un ensemble, un programme. Vous comprenez? C'est pas des éléments. Justement, nous avons un programme construit. Une vraie dynamique. On a mis le temps de le mûrir. On n'a pas eu à en arracher des pages pour pouvoir avoir des votes au deuxième tour ou faire des alliances avec qui, au PS ou avec le PC. On a construit un programme et on s'y tient.
Et alors, monsieur Silbermann, la sortie du nucléaire dans un pays comme la France, où on a parlé tout à l'heure de Areva, qui fait partie, Malvézy, qui fait partie de la filière nucléaire. Est-ce que vous y croyez vraiment? Et au bout de combien d'années?
Vous me demandez si je crois à la survie de l'humanité ou vous me demandez quoi exactement? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu poser cette question à un responsable de Fukushima un mois avant la catastrophe? La sortie du nucléaire, aujourd'hui, elle se décide comment? On a un certain nombre de centrales qui arrivent en bout de vie. Elles ont été construites avec une durée de vie prévue par l'autorité de sécurité nucléaire. Mmh. Et c'est maintenant qu'il va falloir soit les éteindre, soit les renouveler.
Oui, et Fessenheim devait être fermé par M. Hollande. Et il ne l'a pas fait.
Oui, monsieur, parce qu'il y a des considérations politiciennes derrière. Nous considérons que ce soit le cas de Malvézy ou le cas de Fessenheim ou de toute autre installation nucléaire, que détruire, modifier, améliorer, ça créera plus d'emplois que continuer à exploiter dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, le choix, il est où on injecte 120 milliards pour pouvoir recaréner, c'est-à-dire reprofiler pour rallonger la durée de vie d'une centrale dont on sait qu'elle n'a pas été conçue pour ça encore quelques années, où ces énergies, on les réinjecte dans une transition énergétique et d'autres formes d'énergie plus écologiques. La vraie question qui se pose à nous, c'est qu'on a aujourd'hui comme Premier ministre du gouvernement de M. Macron un homme qui a été professionnellement le patron des lobbyistes d'Areva à l'Assemblée nationale. De 2007 à 2010, il était payé, je ne sais pas son salaire, mais j'imagine pas des clopinettes, pour pouvoir convaincre les députés de l'Assemblée nationale d'adhérer au projet d'Areva. Or, vous avez vu dans la presse que EDF prépare un nouveau programme nucléaire à raison de un EPR par an, un Flamanville par an, une arnaque extraordinaire. On n'a pas les moyens technologiques de terminer ce chantier qui est déjà en retard de plusieurs années et qui a triplé son budget, et on veut nous en imposer d'autres au nom de la fuite toujours en avant du nucléaire, qui n'est pas une source d'indépendance, parce que notre nucléaire à nous, il vient, notre uranium, il vient du Kazakhstan, pays hostable s'il en est, et du Niger. Et on peut, si on avait le temps, discuter de l'impact de nos mines d'uranium sur la situation politique du Niger aujourd'hui. Donc ça n'est pas une bonne solution. Mmh. Et le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter en éteignant la lumière, ça se programme. Et ça se programme maintenant pour pouvoir agir dans les années qui viennent.
Voilà, c'était quand même le sens de ma question. La difficulté dans un pays comme celui-ci d'attaquer un tel programme qui est absolument énorme.
Je crois que tout le monde là-dessus était d'accord, en tout cas sur la fin du propos de M. Silbermann. La question est de savoir... Effectivement, sur quelle durée et avec quels moyens sur la durée cette transition se fait, parce que sur le fait qu'elle se fasse un jour, personne effectivement...
Mais il faut commencer maintenant.
Non, mais personne ne dit le contraire.
On a déjà perdu 5 ans avec Hollande.
Personne ne dit le contraire.
Pour terminer, monsieur Silbermann, un petit point aussi sur le social dans votre programme. Je lis par exemple « Remboursement de la sécurité sociale à 100 %». Est-ce qu'aujourd'hui, alors que... Il y a, je sais pas combien, 30 ou 40 ans que ça n'existe plus totalement, les remboursements de la sécurité sociale à 100% avec les tickets modérateurs et ce genre de choses-là. Est-ce que vous pensez, là encore, que c'est un programme atteignable?
Oui, c'est un choix de société. De deux choses l'une. Ou vous avez le programme de M. Fillon qui visait à privatiser une partie de la sécurité sociale, la partie la plus rentable, bien sûr, à des sociétés privées, c'est-à-dire par le biais des mutuelles. Où vous avez le programme de l'avenir en commun qui dit « fini les mutuelles, on intègre les cotisations des mutuelles et le personnel qui travaille dans ces mutuelles dans le système de la sécurité sociale et on va vers un 100%. » Mais encore une fois, il ne faut pas prendre un point isolé, il faut prendre la globalité d'un programme parce que la question qui va suivre, c'est comment vous le financez. Et comment on le finance ? Par des investissements. Et on le finance par des investissements en ignorant résolument et en rentrant dans une relation de force avec la Commission européenne les critères d'encadrement de notre économie. Il ne s'agit pas de quitter l'Europe ou de quitter l'euro. Il s'agit de renégocier des critères dont ils ont fait la preuve partout en Europe qu'ils sont complètement inefficaces, sauf pour la population vieillissante allemande. Voilà la réalité. Donc on peut parfaitement politiquement proposer la sécurité sociale à 100%. On peut parfaitement dire que l'éducation doit être gratuite dans sa totalité, c'est-à-dire les livres, la cantine et le transport. Ça l'était dans la France de la sortie de guerre. Pourquoi aujourd'hui ne peut-on pas le faire ? Parce que derrière, vous avez des monopoles comme Veolia ou d'autres qui profitent de cette situation, de ce laxisme politique pour pouvoir s'installer dans la place et faire des profits sur le dos de l'éducation et le dos de la santé.
Eh bien, merci Jean-Hugues Silbermann, et on comprend pourquoi vous êtes en campagne, pourquoi vous parcourez la Narbonnaise. Alors, la Narbonnaise, c'est-à-dire la circonscription.
La deuxième de l'Aude.
Pourquoi vous organisez moult meetings, et parce qu'effectivement, vous avez des choses à dire pour lesquelles, malheureusement, même ce Radio Barque ne suffit pas en temps.
Ce n'est pas des choses à dire, c'est une conviction profonde qu'on est à un tournant.
À faire partager.
C'est une conviction profonde qu'on est à un tournant et que la France va changer au lendemain du 18 juin pour le bien ou pour le pire. Et je souhaite qu'elle soit pour le bien avec l'avenir en commun et la France insoumise.
Parfait. Merci, Monsieur Silbermann. La prochaine fois, nous ne pourrons plus parler de politique puisque nous serons la veille d'élections. Alors, nous avons invité Patrick Milani, qui est un enseignant du lycée Louise Michel, qui a fait un film avec des élèves sur la violence au lycée et sur fond de trafic de drogue. Enfin, un film qui a été sorti et qui est diffusé sur YouTube aujourd'hui. Nous le recevrons dans le prochain radio. Un dernier mot.
Oui, j'ai simplement, je voudrais abuser de votre hospitalité pour annoncer aux éditeurs de la deuxième circonscription que nous avons une réunion publique demain soir à Cuxac, une autre à Périac de Mer dimanche, une autre lundi à Fitou, une autre à Locats le mercredi, à Névian le jeudi et à Gruissant la dernière le vendredi.
Voilà, ce qui est annoncé d'ailleurs au jour le jour sur les ondes de Grand Sud FM dans nos informations. Merci de l'avoir précisé et ça confirme ce que je disais, vous parcourez la Narbonnaise. Merci Monsieur Silbermann.
Merci Monsieur Jules, Monsieur Stanto.